Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de décomplexion, par exemple à travers une entreprise qui se consacre à l'organisation de banquets géants. Cette boîte s'appelle le Canon Français. Elle a pour actionnaire majoritaire, minoritaire, ça dépend des médias, un milliardaire catholique qui rêve de l'extrême droite religieuse au pouvoir et il rêve d'être saint. Il s'appelle Pierre-Édouard Sterrin. Le repas arrosé se terminant à 17h, et ben juste après, vous avez des gens un peu bourrés, malgré ce qui est indiqué sur le site où ils disent qu'ils font très attention à l'alcool, à l'usage de l'alcool, à l'utilisation de l'alcool. Eh bien, le repas arrosé se terminant à 17h, il y a des gens un petit peu déchirés qui se promènent dans les villes diverses et variées où ont lieu ces banquets. Et il n'y a pas si longtemps, ça se déroulait à Caen. Eh bien, à 17h, à Caen, ça n'a pas loupé. Dans les rues, le 18 avril, une bande de fachos avinés s'est invitée dans les rues du centre-ville et a foutu le dawa avec insultes racistes et saluts nazis, selon un article de Ici Normandie, après un recueil d'une cinquantaine de témoignages. Waouh ! Cette semaine, on apprend également que tirer au fusil à plomb sur des gamins en affirmant qu'on est raciste, ça passe. Une petite garde à vue, tu peux sortir. Et même avec l'aide des policiers qui ne prennent pas l'ensemble de la plainte du père du gamin visé. Non, le caractère raciste de l'affaire a été biffé. Et même quand tu vas au commissariat pour réclamer des changements sur ta déposition, alors là, j'ai pas compris en quoi un policier pouvait dire « Non, vous changez rien. Enfin, c'est moi qui décide de qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer. » Mais il n'empêche que ça s'est passé, puisque quand le père retourne au commissariat pour signaler que les insultes racistes n'apparaissent pas sur le procès verbal, eh bien les keufs refusent, carrément. Ouais. Alors par contre, évite de participer à une manifestation antifasciste interdite la veille par la préfecture pour t'empêcher de faire un recours. Eh non, là tu risques d'avoir des ennuis avec la justice. On aurait pu vous parler des médias qui nous informent, mais pas toujours. Alors pour ma part, je le redis, je ne suis pas un média véritablement et je préfère la démocratie à la République. Je préfère l'autogestion à l'exploitation des ressources humaines et je préfère les antifas aux fachos. Comme ça, tout le monde sait à peu près d'où je parle. Alors c'est moins clair dans les médias d'État, par exemple. Alors pour les médias privés, c'est clair pour tout le monde. C'est surtout le patron qui paye. Donc dans les médias d'État, là c'est moins clair. En novembre 2025, une certaine Alix Bouyagué recevait Manuel Bompard de la France Insoumise dans l'émission Questions politiques, diffusée sur France Info TV et France Inter. Alors qu'elle l'interrogeait sur l'élection en octobre 2025 de Zoran Mamdani comme maire de New York, elle a énoncé plusieurs fausses informations. Fausses informations démontées par le Bompard interviewé qui avait donné lieu à des excuses du bout des lèvres de la part de la journaliste. Tiens, j'ai mis des guillemets là. La semaine d'après, cette semaine, c'est l'ARCOM qui s'est fendu d'une mise en demeure à propos des fake news de Madame Bouyagué. Mais je vous rassure, elle continue de nous informer. On aurait pu vous parler des têtes de gondole vendues avec l'aide de la démocratie représentative pour l'élection du PT de la REP en 2027. Déjà, Glucksmann tenait la corde, toujours dans les médias, pour qui, pourquoi ? Pour nous verser un petit peu de soupe tiède qui n'a pas vraiment beaucoup de goût. Voilà, mais il était bien là, oui, et puis il montait dans les sondages, grâce à l'exposition, on sait comment ça marche, on vous montre un truc, ça vous donne envie. Et depuis les municipales, c'est Édouard Philippe qui devient le meilleur candidat pour battre Jordan Bardella au second tour. Il n'y a pas de premier. Non, il n'y a pas de premier, c'est pas la peine. De toute façon, la démocratie représentative est une vaste escroquerie. Donc cette vaste escroquerie, si en plus on pouvait vous amener à l'idée que de toute façon, c'est même pas la peine de se déplacer au premier tour. Enfin si, pour voter Édouard Philippe et Jordan Bardella. Sinon, les sondages d'Opinion vont avoir dit des conneries pendant des mois, des années même. Oui, là, depuis les municipales, c'est Édouard Philippe qui devient le meilleur candidat pour battre Jordan Bardella au second tour. Vivement qu'on s'occupe vraiment de nos affaires. Parce que là, les sondages d'opinion corrigés des variations saisonnières au doigt mouillé pour nous faire passer un libéral de droite ou d'extrême droite comme le Messie, ça commence vraiment à me faire une espèce de fussoir. Et c'est pas positif. Mais finalement, on a préféré vous parler de ce qui nous concerne tous, en l'occurrence le manger et particulièrement d'agriculture.
Mmh.
aujourd'hui, le 15 avril et jusqu'au 15 mai. C'est le mois de la nature en ville organisé par Le Mans et la métropole Le Mans Métropole. Eh bien, je lis la quatrième de couverture du petit fascicule qui nous présente ce mois de la nature en ville. Le mois de la nature en ville propose de porter un autre regard sur notre territoire. L'environnement urbain, composé d'espaces pluriels, peut offrir à ses habitants une diversité de ressources et un cadre de vie favorisant le bien-être et le développement du vivant. Deux points. Jardins potagers, fleuriers partagés, vergers, fermes urbaines et périurbaines, zones horticoles. En préservant les espaces naturels, en agissant pour la biodiversité et en développant l'agriculture urbaine, la ville devient nourricière. Retrouvez les professionnels, experts et amateurs lors de nombreux rendez-vous proposés. Un mois pour prendre, et puis il y a un « re » entre parenthèses juste avant, reprendre ou prendre contact avec les richesses que nous offre la nature en ville, une nature à développer, à préserver et pourquoi pas à réinventer, comme par exemple en coupant des arbres. Ah non, ça c'est pas noté ça. Oh pardon. La ville nourricière, bon, c'est quand même un petit peu vite dit, hein. La ville nourricière, je ne sais pas si elle nous nourrit tant que ça. Bon, bah, bien sûr, les gens ont des jardins. Mais de fait, l'essentiel de ce que nous mangeons vient de l'activité agricole hors des villes. Et ce secteur agricole repose surtout sur un modèle, le modèle productiviste, dans lequel la quantité est un but en soi, puisque la quantité va permettre d'augmenter ses revenus. Eh oui, l'agriculture productivisme, le libéralisme et son égoïsme qui fait que oh ben, on produit simplement pourquoi ? Ben, pour essayer d'être le plus riche du cimetière. Eh, c'est très très lié, cette agriculture productiviste et ce libéralisme économique. Eh bien, ça repose surtout sur le modèle productiviste, une quantité au rendez-vous en France, hein, puisque oh ben, on produit, hein, mais dont la rétribution dépend des bourses de matières premières où les prix des produits agricoles sont fixés. Par exemple, à Paris, oui, Euronext, puisque la Bourse de Paris, c'est une entreprise qui s'appelle Euronext et qui n'est pas que donc la Bourse de Paris. Paris est une succursale. Eh oui, les bourses sont des entreprises qui se cotent elles-mêmes. Ouais, tout va bien. Non, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et par contre, quand on vous balance les chiffres de la bourse comme étant des vérités révélées, ben là, par contre, il y a une arnaque, une grosse. Mais bon, on n'est pas à une escroquerie près dans les médias. Donc Euronext, eh bien sinon, à part Paris, dans les bourses de matières premières, on a aussi Chicago. Chicago, on n'a pas vu un gramme de cacao, enfin en tout cas ça ne pousse pas dans le coin du lac Michigan, et pourtant c'est là que le prix du cacao au niveau mondial est fixé. Par exemple, dans les échanges mondiaux, le prix des productions agricoles n'est pas le fait du producteur, mais c'est le fait du marché. Mais oui, le sacro-saint marché des libéraux en économie, cette cotation, elle nous permet de savoir, puisqu'un prix est donné aux choses, que l'agriculture française, donc produite en France, représente 89,3 milliards d'euros en valeur en 2024. Pff, eh ouais, ça produit près de 90 milliards d'euros de valeur. Bon, ça produit surtout de la nourriture, hein. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais bon, selon les données officielles des chambres d'agriculture, 89,3 milliards d'euros produits en valeur en 2024 par l'agriculture française. Le ministère de l'Agriculture et France Agrimer, un établissement national qui est le relais entre les agriculteurs et les fonds européens et qui aide également à l'exportation et qui donne des informations économiques et qui les tient à jour, oh ben dis donc, que devait, produisent, contrairement à ce qui se passe dans la nature, produisent chaque année un état des lieux des exportations agricoles françaises. Donc le ministère de l'Agriculture et France Agrimer nous dit que pour la période juillet 2024-juin 2025, 82 milliards d'euros de produits agricoles et agroalimentaires, c'est important, donc transformés, ont été exportés. Alors, difficile de comparer les deux chiffres, puisqu'une partie de la production agricole brute est transformée avant d'être exportée dans le second chiffre. Et donc, ça prend de la valeur. Cependant, ces deux chiffres montrent que les discours des centrales syndicales majoritaires sur les paysans qui nourrissent le pays ne tient pas. Non, ça ne tient pas. En fait, les productions sont en majorité destinées à l'exportation. Avec la conquête de parts de marché, comme pour n'importe quel autre produit, des fringues, des chaussures, tout, en fait. Mais la nourriture n'est pas n'importe quel produit. Et il existe d'autres modèles agriculturaux plutôt liés à l'économie sociale et solidaire, économie où le service rendu prime sur l'accumulation de profits. Le but, c'est de vous nourrir et non pas de faire du pognon. Ce que ne font pas les agriculteurs, puisque la plupart ne se rémunèrent pas vraiment beaucoup. Eh oui, ce système, il favorise bien sûr les plus gros. Tiens, un petit peu comme d'habitude alors. Et tout commence avec la graine. Alors pour les fidèles auditeurs, vous vous souvenez sans doute de l'interview du maire d'Ungersheim, qui s'appelle Jean-Claude Mensch, qui est devenu simple conseiller municipal depuis le 22 mars dernier. Bon, il a passé la main. Une interview que nous avions passée les 28 février et 7 mars. Les émissions sont écoutables sur radioalpa.com dans la page Radico Libre. Waouh ! Une interview où Jean-Claude Mensch parlait d'autonomie et notamment par l'organisation d'une filière agricole municipale. C'est ça qu'il nous faudrait peut-être plutôt pour qu'un mois de la nature en ville, peut-être une année de la nature en ville, peut-être une année de la production agricole municipale en ville. Mais bon, un mois, c'est déjà bien. Ça fait un peu de spectacle. Donc, notamment par l'organisation d'une filière agricole municipale de la graine à l'assiette. Si vous voulez réécouter les interviews, 28 février et émission du 7 mars. Des agriculteurs sont donc spécialisés dans la production des graines. Oui, parce que là, dans la filière agricole municipale de la graine à l'assiette, ils produisent un peu leurs semences. Pas tout, hein, mais un peu. Non. Pour la plupart des agriculteurs, c'est un truc qui s'achète. Et donc, des agriculteurs sont spécialisés dans la production des graines, des semences. On les appelle les multiplicateurs, agriculteurs multiplicateurs. Ils sont environ 19 000 en France, travaillant sur près de 400 000 hectares. Fin mars 2026, lors d'une réunion du CCFD Terre Solidaire, le CCFD, c'est le Comité catholique contre la faim. Eh oui, il n'y a pas que des faf chez les cathos. Mais non, mais c'est plutôt rassurant. Et ils ont même produit un nouveau magazine qui s'appelle Le Cri. Voilà. Donc, si vous êtes abonné à Télérama catholique, eh ben, abonnez-vous aussi au CRI. Eh bien, le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire organisait une réunion à la chapelle Saint-Aubin. Et ça a été l'occasion pour nous de rencontrer un agriculteur multiplicateur qui se présente lui-même.
Bonjour, Gabriel Potier. Je suis agriculteur multiplicateur de semences potagères, aromatiques et florales en agriculture biologique.
Eh ouais, il fait pas de céréales en fait, il fait autre chose, il fait du poireau, du céleri, des fleurs, des plantes aromatiques, etc. Mais il faut bien de la graine. Le Gabriel Poitier en question est installé sur la commune du Grèze, près de Sillé-le-Guillaume. Mais alors pourquoi faire ? Eh ben il nous en dit un petit peu plus sur son boulot.
Alors déjà un agriculteur multiplicateur, c'est quoi ?
C'est qu'on me donne, ce sont des semenciers qui me donnent des contrats de production. Ils me donnent une semence de base, une génétique, ils me donnent une graine, et ils me demandent de la multiplier, d'en faire 1000, 10 000, suivant les termes du contrat. C'est-à-dire que je vais laisser mon légume, ma fleur ou mon aromatique monter à graines et récolter ces graines.
On n'en voit jamais une fleur de poireau, ça ressemble à quoi ?
C'est vrai que c'est long à venir, un poireau c'est sans doute la culture la plus longue, ça met 20 mois pour obtenir la graine. D'abord il faut la semer, repiquer le poireau, le laisser monter en deuxième année et effectivement il fait comme un pompon avec plein de petites fleurs et qui sont fécondées et donnent une petite graine noire tout au bout du cycle.
Et donc ces graines noires vous les revendez au semencier qui vous a passé la commande ?
Oui tout à fait, donc je les récolte, je bats la fleur pour extraire la graine. Ensuite, je la passe dans des machines, mais ce sont des tamis améliorés où il y a des petites souffleries pour extraire les impuretés principalement et garder les bonnes graines parce qu'il y a des graines un peu plus grosses qui ont été mieux fécondées, qui se sont mieux remplies, qui ont eu plus accès à de la sève et des graines assez plates qui vont mal germer. Donc ça, on essaie de les retirer pour que le semencier, lui, ne vende qu'une graine qui puisse germer.
Parce que vous avez des obligations, en fait, hein, une sorte de cahier des charges, et le semencier aussi, lui, il va vendre des graines, mais il a obligation à ce que ces graines, enfin en tout cas une grande partie, puissent donner des poireaux, et non pas que ça donne rien du tout.
C'est une production, la semence, qui est très encadrée. Le semencier doit vendre de la graine qui germe, c'est-à-dire qu'il y a des seuils légaux de germination, par exemple le petit pois. On ne peut pas vendre un lot de petits pois qui est en dessous de 80% de germination. Et ensuite, il y a d'autres critères, effectivement, les aspects variétaux. Si c'est un poireau, bien sûr, il faut que ça ne soit pas une tomate, c'est évident. Mais si c'est un haricot violet qui est nain, il faut bien que ça soit un haricot nain, qui ne soit pas à rame, et avec une gousse violette. Sinon, il ne respecte plus les critères. Il y a un catalogue officiel qui décrit chaque variété. Il faut respecter ces critères. Donc moi, quand je prends le contrat, je m'entends avec le semencier sur le travail à faire, sur la génétique. Effectivement, il y a deux parts et d'autres, que ce soit moi, agriculteur, multiplicateur ou le semencier, il y a des conditions à respecter avant de pouvoir vendre la semence au consommateur final qui va être le producteur professionnel, le maraîcher ou le jardinier amateur.
Et ben voilà l'ensemble du boulot. Alors, quand Gabriel Potier parle de haricots haram, eh bien, haram, c'est en deux mots. Non, non, il ne fait pas référence à l'illégalité en arabe. Ce point étant éclairci, continuons à aborder, en abordant pardon, l'existence d'un réseau qui a des semences particulières, on les appelle les semences paysannes. Il en avait parlé dans son intervention et je lui repose la question.
Vous avez parlé tout à l'heure d'un réseau, le réseau Semences Paysannes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce réseau ?
Alors, j'en suis membre adhérent, mais je participe très peu, je cautionne ce qui est fait. Depuis une vingtaine d'années, justement, il y a des paysans qui se sont dit « mais c'est aberrant ce qui se passe, on n'a plus accès à des semences traditionnelles, très vieilles, qu'on avait autrefois dans nos fermes, que nos parents avaient, on a perdu ces vieilles variétés, il faut les retrouver, quand on les a retrouvées, il faut les conserver, il faut pouvoir les faire prospérer, qu'effectivement, demain, on puisse toujours les utiliser, on puisse les échanger, on a des droits en tant que paysan. » Donc c'est un réseau qui va essayer de promouvoir toutes ces pratiques-là, parce que, en fin de compte, c'est un réseau qui se heurte à la révolution agricole, et qui se dit, mais on nous dépossède de notre travail de paysan. Nous, on veut rester paysan. Comment faire pour rester paysan ? Eh bien, le premier point, c'est de maîtriser la semence. Parce que quand on maîtrise la semence, on maîtrise l'agriculture. Donc, c'est le point névralgique. Et donc, ce réseau est constitué de plusieurs associations. Encourage, promeut la semence paysanne et essaie de faire vivre ces vieilles variétés par des échanges de techniques, de bonnes pratiques, etc.
Oui, ça cut un peu sec. En effet, posséder l'autonomie de la production des semences est à la base de l'activité agricole. Dans les espaces de culture dits traditionnels, les paysans gardent une partie de leur production pour produire eux-mêmes leurs graines. La création de l'intermédiaire semencier réduit cette autonomie. Surtout que les semenciers ont tout intérêt à ce que les graines, les semences vendues, ne puissent pas être utilisées pour produire soi-même ces semences. Bah sinon, les semenciers perdent des clients. En Sarthe, le CIVAM de la Sarthe, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, une association qui valorise la transition écologique pour une agriculture durable, située au Mans, près de l'université, dans la Maison des Paysans, rue Auric, est membre du réseau Semences Paysannes, réseau que vous pouvez trouver sur les internets à l'adresse suivante, semencespaysannes au pluriel, semencespaysannes.org, semencespaysannes.org. Mais au fait, ces semences paysannes, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut en donner une espèce de définition ? Bon, on écoute Gabriel Potier sur le sujet.
C'est quoi ça, des semences paysannes ?
C'est un vaste débat. Moi, je travaille en agriculture biologique. Encore une fois, il y a un cahier des charges. C'est-à-dire que nous sommes encadrés et contrôlés par des organismes indépendants pour le respect du côté bio. Il y a un cahier des charges bio, avec des obligations sur la fertilisation uniquement organique, par exemple, et des molécules qu'on peut utiliser ou pas pour des traitements éventuels. Ensuite, dans les semences, moi je ne produis que des semences libres et reproductibles. Reproductibles parce qu'on peut les répéter à l'infini, il n'y a pas eu de manipulation de l'ADN, donc du noyau ou du cytoplasme. Ce sont des légumes comme toutes les plantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se multiplier à l'infini, se reproduire comme les animaux, etc. Libre, c'est qu'elles ne sont pas soumises à des brevets. Donc il n'y a pas eu une obtention, ou disons que l'obtention a expiré et que maintenant c'est tombé dans le domaine public.
Donc les semences paysannes sont libres, pas attachées à des brevets, et reproductibles. Elles peuvent être semées. Et les graines issues des plantes produites peuvent aussi être semées pour faire pousser des plantes dont les graines pourront encore être semées. Bon, j'arrête là. Mais alors, que sont les autres semences ? Si les semences paysannes, même si on n'a pas une définition très très claire, elles ont déjà des caractéristiques libres, reproductibles, si en plus elles sont bio, c'est trop cool. Mais quelles sont les autres semences, celles qui ne sont pas paysannes ? On écoute à nouveau Gabriel Potier.
Parce qu'en effet, il existe d'autres sortes de semences, de graines, qu'on appelle les semences qui sont au catalogue, elles, qui ne se reproduisent pas. Peut-être que je mélange deux, trois choses. Bon, du coup, est-ce que vous pouvez démêler les chevaux ?
Oui, c'est vraiment un vaste débat. C'est comme vous avez cité paysanne. Pour moi qui suis adhérent du réseau Semences Paysannes, il y a encore des valeurs plus fortes à mettre derrière libre et reproductible. On va encore plus loin dans la démarche. c'est que les paysans doivent se réapproprier le savoir-faire de la semence, ils doivent savoir le faire, le continuer, pouvoir vendre aussi cette semence, enfin voilà, avoir la maîtrise de la semence. Ensuite, l'histoire du catalogue officiel, la vente de semences est très encadrée, que ce soit la semence animale ou végétale, c'est très encadré en France et dans tous les pays occidentaux en général. Du coup, on a créé en Europe un catalogue officiel où il y a des variétés qui sont mises dans des cases, on va dire, avec des lettres, etc., qui ont des propriétés chacune. C'est-à-dire que parfois, elles vont pouvoir être vendues sur certains marchés et d'autres pas. Par exemple, moi, en tant que multiplicateur, je vais avoir le droit de vendre une certaine catégorie de semences de ce catalogue officiel. C'est un travail qui a été fait pour légiférer sur le sujet et encadrer les ventes, la production, etc. Mais c'est très très complexe, même pour moi qui suis professionnel.
Alors, il y a des semences qui sont libres et reproductibles, et d'autres qui, de fait, ne le sont pas. Comment on les appelle ?
Alors, comment on les appelle ? Toutes les semences brevetées qui sont protégées par des COV, certificats d'obtention végétale, elles ne sont de fait pas libres. Voilà, il y a des brevets dessus. Reproductible. Alors là, on se heurte à deux choses. On peut dire qu'il y a des semences qui ne sont pas reproductibles parce que pendant un temps, par modification du cytoplasme, on peut modifier le végétal de telle sorte que la graine qu'il produit ne soit plus féconde, ne germe plus. Ça, en tout cas, on n'obtient pas une graine. Voilà, tout simplement, je l'ai vu par exemple sur des vieilles variétés de betteraves où je plantais ce qu'on appelle des CMS et la betterave fleurissait mais n'était jamais fécondée et j'obtenais jamais de graines. Et après, en relisant comment on avait obtenu cette variété, on a compris que c'était une CMS, donc ben, en fait, c'est pas reproductible. Donc de fait, elle n'est pas reproductible, on n'obtient plus de semences. Ça peut aussi renvoyer à une autre notion, c'est-à-dire que pour qu'on accepte les ventes en France, il faut que la génétique soit stable. Et l'hybride F1, tel qu'il est créé, n'est justement pas stable dans sa descendance. Ce qu'on obtient, c'est un produit homogène l'année où on l'utilise. Par contre, la descendance, eh ben, on va se retrouver avec des influences des parents. Et du coup, ce n'est pas reproductible. Voilà, cette semence, ça ne va pas rester stable. Mais pour le coup, si vous avez un poireau hybride, vous obtenez des graines de ce poireau hybride, vous pouvez ressemer, ça va vous donner du poireau. Il y aura quelque chose. Par contre, il ne sera pas conforme à la description initiale. Donc voilà, il y a toute cette terminologie-là qu'il faut comprendre derrière ces mots libres et reproductibles.
Oui, tout ça, parce qu'il y a des malins qui mettent des brevets sur le vivant. Et donc, cela capare. Ils triturent la génétique par croisement, hein, pas forcément par des OGM, enfin par des techniques très très compliquées, et ils stabilisent une nouvelle plante. C'est du boulot, mais c'est surtout de l'investissement, pour vendre ensuite de la graine. L'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, définit les COV, les certificats d'obtention végétale, comme ça. Le COV est un titre de propriété industrielle spécifique destiné à protéger les variétés nouvelles, stables, distinctes et homogènes, issues de la création ou de l'amélioration génétique des plantes. Il s'applique à tout genre ou espèce végétale, permettant aux créateurs de valoriser leur innovation, tout en encourageant la diversité agricole et horticole. Bah oui, diversité. Pas la biodiversité, hein, non, la diversité de ce qu'on peut vendre. Une fois le COV officialisé, la graine et son patrimoine génétique spécifique appartiennent aux détenteurs du COV. Et pour l'utiliser, eh ben faut l'acheter. Dans le son, Gabriel Potier, agriculteur multiplicateur, utilise l'expression hybride F1. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben c'est à lui.
Donc ce que vous appelez les hybrides F1, ce sont des graines qui vont permettre d'obtenir un produit conforme à la description une année. Par contre, les années suivantes, si ça donne quelque chose, tant mieux, mais ça ne donnera pas forcément ce qui avait été prévu au départ.
C'est exactement ça. Ça va donner quelque chose parce qu'aujourd'hui, les hybrides sont travaillés avec des CMS où on a restauré la fertilité. Donc, généralement, ça donne quelque chose. On aura des choses très, très variables. On peut le voir aussi avec les fleurs sur des hybrides où, allez, on peut imaginer une fleur bleue. Vous cultivez la fleur bleue, vous obtenez la graine et puis la descendance, vous obtiendrez des choses très, très particulière, avec peut-être 20% ou 25% des fleurs qui sont rouges, 50% qui sont oranges, et puis une petite portion qui sera bleue, ou que sais-je. Voilà.
De fait, là, il y a cette volonté par les hybrides F1 d'avoir une nature qui est totalement encadrée dans la nature. Les choses s'hybrident naturellement, on pourrait dire, se croisent naturellement, ce qui permet justement la biodiversité.
Oui, ce sont de vastes débats et des façons de voir le monde, on va dire, complémentaires, mais qui se choquent très, très souvent. L'hybride a été fait pour aller chercher certaines caractéristiques, souvent le rendement. Mais il n'y a pas que ça. Quand on tire sur le rendement, souvent on déshabille sur les aspects qualitatifs ou l'immunité de la plante, la rusticité. Pour moi, c'est un peu une couverture qu'on va déplacer. Si vous tirez sur, je ne sais pas, les qualités organoleptiques, malheureusement, vous allez peut-être perdre en rendement. Mais vous aurez un potimarron qui est savoureux, qui a vraiment le goût de châtaigne. Voilà, ces hybrides ont été faits pour répondre à un marché qu'on a souvent créé à force de publicité aussi. Les principaux critères, c'est quand même le rendement. Ça génère des soucis, effectivement, ces deux visions du monde, parce que d'un côté, on a la nature, et puis de l'autre, on essaie de la canaliser. Alors, c'est très bien, l'homme a toujours essayé de faire du progrès et doit le faire. Le petit souci que je vois dans les façons de faire et de façons de décrire, c'est qu'effectivement, on encadre beaucoup et on ne permet pas trop l'adaptation des plantes aux conditions qui changent en permanence. Et ça, en France, on est un peu borné, je dirais, dans notre vision. Il y a des pays qui utilisent des populations, je pense en Suisse, etc. Et ils ont une autre approche, tout simplement, du monde végétal, du vivant. Et ils ne s'embêtent pas avec des caractéristiques comme nous, pas au même degré, quoi.
Vous voulez absolument savoir ce qui se passe en Suisse ? Eh bien, nous en parlerons la prochaine fois. Ouais, je sais, c'est moche de faire du teasing comme ça, mais c'est comme ça. Eh bien, que vous dire que, par exemple, dans pas très longtemps, c'est-à-dire pour les auditeurs du direct, à 16h, il y a une journée troc de plantes, projection et banquet paysan et bio. Et ça se passe à la ferme brasserie Blossier, qui est à la Basse-Lande, à Segri. Vous allez direction le nord-ouest à peu près, hein, voilà. Et puis vous retrouvez à Segri à partir de 16h. Troc de plantes, vente et dégustation de produits bio et locaux. 18h, projection du film documentaire La Terre des Vertus de Vincent Lapize, où des jardins ouvriers des vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés au JO 2024 et à la pression foncière. Et puis à partir de 20h, banquet bio et paysan à prix libre, buvette sur place, pensez à covoiturer, etc. Ça se passe donc samedi 25 avril à la ferme brasserie Blossier à la Basse-Lande à Segri. Également, vous avez loupé à Pontlieu aujourd'hui un troc plantes et graines. Regardez autour de vous, il y en a un petit peu partout. Pourquoi ? Parce que c'est le moment. C'est le printemps. Sinon, mardi 28 avril 2026 à 19h45 au Colisée, c'est rue du Port, SEM, c'est-à-dire Santé Environnement Mancel, une association qui, tous les 28 du mois, produit quelque chose, enfin produit un événement pour sensibiliser les populations aux impacts sanitaires des polluants chimiques. Eh bien, le mardi 28 avril 2026, il y a la présentation avec une intervenante qui s'appelle Fabienne Lagarde d'un film qui s'intitule Homo Plasticus, l'ère des microplastiques. Ça va être trop super. Non, mais c'est histoire après d'avoir des pratiques différentes. Pourquoi ? Parce que personnellement, déjà, faut changer si on veut changer le monde. Donc, Colisée, CGR, le mardi 28 avril 2026, à 19h45, SEM fait son cinéma. Vous pouvez avoir toutes ces informations, mais où cela ? Eh bien, sur sarthe.demosphère.net. Sarthe.demosphère.net. Et la prochaine fois, on parlera de la Suisse, et puis on parlera de méga-bassines. Mais en attendant, eh ben, il y aura le 1er mai. Et le 1er mai, devinez ce qui se passe ? Eh bien, il y a des gens qui ne travaillent pas et il y a des gens qui manifestent le fait que le travail, c'est peut-être pas que la santé. Alors, n'hésitez pas à vous rendre à la manifestation du 1er mai. Et nous, on se retrouvera le lendemain, peut-être pour parler de ça, mais surtout de Suisse et de méga-bassines. En attendant, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Thank you.